au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent les chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois, j'espère que vous allez bien. La santé, c'est tellement précieux. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui, sans être médecin ni infirmière, est très sensible aux questions relatives à la santé. Avocate en pratique privée pendant une vingtaine d'années, elle a obtenu un diplôme de deuxième cycle en droit de la santé de l'Université de Sherbrooke et détient un diplôme d'études supérieures en bioéthique de l'Université de Montréal et poursuit un MBA pour cadre en exercice. Au gré du temps, elle s'est intéressée à l'administration de la santé après avoir été conseillère à la direction générale du centre hospitalier Pierre Legardeur et membre du conseil d'administration de cet établissement pendant plusieurs années. Elle assume maintenant la direction de l'Association des cadres supérieurs du réseau de la santé. C'est donc un plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Trempe. Bonjour à vous.
Bonjour, M. Dubois.
Effectivement, un parcours un peu singulier.
Assez ectopique, oui.
Assez ectopique. La santé, pour une avocate, c'est quand même assez particulier comme parcours. Qu'est-ce qui vous a amené, effectivement, à vous intéresser à ces questions?
Je vous dirais que j'ai été intéressée à la santé par le biais de la bioéthique, tout d'abord, au début des années 90. Ça a été ma porte d'entrée dans le réseau de la santé. Mm-hmm. J'avais, à ce moment-là, été sollicitée pour agir à titre de procureur au comité de bioéthique qui était en gestation à l'hôpital Pierre-Legardeur aujourd'hui. J'ai assisté à une première formation et là, j'ai vraiment eu une révélation. C'est venu toucher mes fibres, c'est venu me toucher l'âme directement parce que il s'agissait de réfléchir et de tenter d'apporter des solutions sur ce qu'on appelle l'éthique au chevet du malade. Alors, mm-hmm. des grandes questions existentielles humaines, de la vie, de la mort, du prolongement de la vie, du prolongement même de la naissance. Des questions qui sont
toujours d'actualité, d'ailleurs.
Qui seront toujours d'actualité, oui. Tant qu'il y aura des hommes, je vous dirais.
Oui.
Donc, je me suis intéressée à la santé via cette porte-là. Et là, je me suis demandé comment je pouvais faire pour m'intégrer à partir de ma formation et de ma pratique sans pour autant faire le parcours traditionnel des avocats qui font un peu de droit de la santé en poursuite.
Mm-hmm.
Poursuite pour responsabilité professionnelle, hospitalière. Moi, ça ne m'intéressait pas. J'avais envie de faire partie de l'équipe de l'hôpital. J'avais envie de les aider à trouver des solutions. J'avais pas envie de les empêcher d'avancer. Et je voyais que cette ressource-là n'existait pas dans nos établissements de santé au Québec, alors qu'aux États-Unis, déjà, c'était mis en place.
Et qui dit éthique dit valeur, oui. Défense de valeurs fondamentales, vous l'avez dit, les oui. grandes questions existentielles.
Exactement.
Maintenant, dans la fonction que vous occupez, et on aura l'occasion d'en parler au cours de la prochaine heure, c'est vraiment au cœur des préoccupations que vous avez à défendre.
Toujours, parce que même si aujourd'hui, je ne travaille plus en milieu clinique, comme je l'ai fait précédemment, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, je continue de travailler avec des humains.
Alors, on y reviendra. Vous nous avez apporté aussi de la belle musique
oui.
qui va peut-être nous permettre de porter justement les valeurs que nous allons aborder. La première pièce, mm-hmm. Elle est extraite de Samson et Dalila.
Oui.
Pourquoi?
Mon cœur s'ouvre à ta voix. Je pense que c'est une des plus belles chansons d'amour qui a été écrite. C'est une chanson extrêmement intense et un véhicule sentimental puissant avec une interprète qui a une voix riche et large. C'est quelque chose qui, moi, me touche à toutes les fois que je l'entends. Je pense que ça tourne autour de l'amour et puis c'est la principale valeur qui anime les êtres humains.
Alors Marlene Horne, cette mezzo-soprano américaine, interprète cet air. Marlene Horne qui a cessé ses activités, on le sait, en 98, mais qui a cette qualité d'avoir une voix un peu profonde et même très grave, qui a fait d'abord carrière comme soprano, mais qui essentiellement est une mezzo-soprano. Alors cet extrait de Samson et Dalila. de retour à l'émission Au gré du temps, en compagnie de Mme Carole Trampe, qui est directrice de l'Association des cadres supérieurs de la santé. Alors, cette fonction, ça représente quoi? Quelles sont effectivement, essentiellement, les fonctions que vous occupez?
En fait, je vous dirais que je suis un chef d'orchestre.
Oui.
Je dirige une association qui regroupe les directeurs des établissements de santé.
Et ça veut dire combien de personnes?
Au Québec, il y en a 1500 autour, mais qui sont membres de l'association autour de 1200 quelques.
Des gens dont on n'entend pas nécessairement beaucoup parler. On parle beaucoup des médecins, des infirmières, mais les gestionnaires, eux, sont parfois relégués dans l'ombre.
Ben, je vous dirais qu'ils sont constamment dans l'ombre. Oui, on n'en entend pas parler. Puis quand on en entend parler, la population les assimile à des fonctionnaires. En fait, les gens ne savent pas ce qu'ils font, mais ils font rouler le réseau de la santé, et c'est l'équipe de direction. Ce sont les gens qui prennent les décisions, qui donnent les grandes orientations, qui développent les stratégies, qui dirigent. Ce sont des gestionnaires. Donc, on ne les voit pas quand la population accède aux services de santé ou aux services sociaux. C'est rare que les gens vont voir le directeur des finances, le directeur administratif, le directeur des ressources informationnelles, le directeur des ressources humaines, le directeur des services professionnels.
Et qui subissent un stress énorme parce que, bon, on vit une pénurie de personnel, pénurie financière et tout le reste, et c'est eux qui sont au cœur de ces activités.
Exactement. Effectivement, la pénurie... je commencerai peut-être par parler du stress qui origine de la réforme de 2005, au moment où les établissements se sont fusionnés pour devenir des C3S. Les fonctions sont demeurées... Je vous dirais, les titres de responsabilité sont demeurés les mêmes, mais la fonction, la tâche et la complexité se sont accrues de façon considérable. Alors, ce sont des gens qui s'adaptent très, très bien et qui... Je vous dirais que s'adaptent peut-être trop bien, qui devraient peut-être quelquefois ralentir et se choisir.
Et qui vieillissent comme la population, la tendance est la même. On pourra y revenir. Prochaine pièce, elle est fantastique, elle est de Mahler.
L'Adagietto.
Oui, pourquoi cette pièce?
Parce que Mahler est parmi mes compositeurs préférés à cause de sa profondeur. Et c'est quelqu'un qui a écrit des choses qui vont dans le fond de l'âme. Cette pièce-là a été écrite pour celle qu'il a épousée. Et quand il l'a eue écrite, il lui a envoyé comme constituant sa demande en mariage, sans qu'aucune parole ne soit écrite sur la pièce. Et elle a accepté de l'épouser simplement en écoutant la pièce.
C'était Alma Schindler, je crois.
Exactement. Et cette pièce-là, donc, est pour moi un messager d'amour extraordinaire.
Et cette cinquième symphonie a été créée au début du siècle. C'est vraiment... Ça lançait, je crois, le 20e siècle. Voilà. Écoutons cette pièce de Gustav Mahler. Thank you. Armand Dubois au micro, en compagnie de Carole Trempe, directrice de l'Association des cadres du Réseau de la santé. Alors, on parlait de ce stress que vivent les gestionnaires, mais c'est quand même une fonction excessivement stimulante.
Absolument. Je vous dirais que les gens qui occupent cette fonction de cadre supérieur du Réseau de la santé et des services sociaux sont tous des gens passionnés. Autrement, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Puis ils ne le feraient pas dans le contexte qu'ils le font. Puis ils ne le feraient pas avec autant de pérennité. Ce sont des gens qui travaillent 60-70 heures par semaine. Il faut vraiment qu'ils croient.
Mais le problème, c'est qu'ils vieillissent. C'est ce qu'on évoquait. Et la relève n'est peut-être pas toujours au rendez-vous.
La relève n'est pas au rendez-vous et on doit travailler très fort en collaboration. Quand je dis « on », j'inclus les associations de cadres, dont les cadres supérieurs, les autres associations, les associations d'établissement et le ministère de la Santé, afin de trouver une façon d'intéresser, d'attirer la relève dans notre réseau. Une fois l'avoir attirée, la retenir, la mobiliser autour des grands principes, parce que ça devient un sérieux problème.
Alors, quel serait cet appât au bout de la maison?
Bien, il y en a plusieurs, en fait. Certaines personnes penseraient spontanément que l'argent pourrait tout régler. Moi, je vous dirais que non. Pour connaître assez bien mes cadres supérieurs depuis un certain nombre d'années, bien sûr que l'argent est un facteur extrêmement important pour tout le monde, pour eux également. Mais il y a toute la question de la reconnaissance du travail, de la façon dont on peut organiser le travail, de la façon dont ces gens-là peuvent avoir la satisfaction d'être reconnus comme étant des éléments qui apportent, qui ajoutent une valeur ajoutée.
Et vous avez l'impression qu'actuellement, cette reconnaissance n'est pas au rendez-vous?
Pas toujours. Pas toujours. Je pense qu'on prend pour acquis le travail des cadres supérieurs beaucoup. On considère qu'ils font ce qu'ils font, puis ils doivent le faire, puis un point, c'est tout. Mais on oublie souvent la dimension humaine de ces gens-là. Mm-hmm. On oublie de faire attention à eux, dans tout ce que ça veut dire sur le plan humain et sur le plan du travail, bien entendu.
Alors, faire attention à eux, on va faire attention à leurs oreilles aussi. Parce que la prochaine pièce, on pourra d'ailleurs mentionner peut-être ultérieurement, mais vous êtes vous-même choriste.
Oui.
Vous aimez beaucoup le chant choral.
J'adore le chant choral.
Et vous nous avez choisi une pièce qui n'est pas très connue.
Non.
Peut-être connue dans le monde des choristes, mais pour les autres, c'est peut-être un peu moins connu. Mais c'est quand même un auteur américain prolifique. Il s'agit de Morten Lauritzen, qui a été un compositeur en résidence pour le Los Angeles Master Choral.
Oui.
Quel est le titre de la pièce que vous nous présentez?
Dirait-on. Et c'est une magnifique pièce chorale, effectivement, qui n'est peut-être pas très connue, mais qui mérite de l'être et qui va certainement plaire à vos auditeurs.
Thank you.
Très jolie, cette pièce, Madame Trempe. Nous poursuivons notre entretien avec la directrice de l'Association des cadres du Réseau de la santé. Madame Trempe, on disait que les cadres étaient peut-être un peu dans l'ombre, qu'il n'y avait pas cette reconnaissance. Ils ont intérêt à communiquer ce qu'ils font. D'ailleurs, au cours des prochains jours, vous tiendrez votre congrès annuel sur le thème de la communication.
Absolument. La communication le thème du congrès tournera autour de la question de la communication, à savoir comme outil de développement personnel et outil de développement professionnel. L'Association des cadres supérieurs a pour habitude de faire des congrès que je qualifierais d'humanistes. On reçoit les cadres supérieurs pendant 2 jours où on leur permet des conférenciers de haut niveau pour s'alimenter.
Oui, parce que c'est un stimulant très fort, un congrès.
C'est exactement ça. Et puis, on leur propose des thèmes qui les touchent et qui leur font du bien et qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir l'impression d'avoir appris des choses, qu'ils vont avoir fait le plein d'énergie. Cette fois-ci, la communication, parce que je crois qu'à tort, on pense que parce qu'on dispose de moyens technologiques assez avancés, on n'a plus besoin de faire autre chose que de s'écrire des courriels ou de s'écrire ou de consulter ou de faire des recherches.
Exact.
On oublie la dimension humaine. La position que nous, on prend, c'est de dire que la communication, c'est d'abord respecter l'être humain, respecter la personne qui est devant soi, l'écouter et ensuite être supporté par toutes sortes de moyens technologiques. Donc, notre congrès tournera autour de la communication sous toutes les facettes, tant par les arts visuels que les arts auditifs. On va faire l'histoire, on va partir des signaux amérindiens jusqu'à la haute technologie d'aujourd'hui. On va faire le tour de ces questions-là. Il va y avoir des débats du type de ce qu'anime Mme Bazot. Il va y avoir du sport, là. Bon, un débat de ce type-là qui va affronter des gens qui pensent que la communication, c'est un outil de gestion essentiel, alors que d'autres pensent que c'est moins nécessaire. Ça va être assez intéressant.
D'autant que les cadres sont souvent pris à défendre des positions qui ne sont pas toujours faciles face à leurs employés, dans un état de contrainte, on l'a dit précédemment, la contrainte du personnel, la contrainte des finances et tout le reste. D'où l'importance d'avoir à bien communiquer les décisions que l'on doit défendre.
Vous savez, les cadres supérieurs sont des gens extrêmement créatifs. Alors, on fournit un peu de créativité quand on les reçoit à leur congrès annuel.
Alors, Madame Trempe, on va terminer cette première demi-heure avec peut-être un chant très inspirant. Il s'agit des moines et prophètes, les pauvres de Saint-François, qui forment dans l'Église catholique une communauté nouvelle fondée à Trois-Rivières en 1973. La prière de la communauté s'exprime beaucoup par le chant, un chant sacré inspiré de la tradition, mais avec des accents renouvelés, une façon originale de proclamer la parole de Dieu, mais aussi de peut-être prendre un temps de réflexion à l'égard de ces grands problèmes auxquels seront confrontés demain ces cadres dont vous êtes la représentante. Alors, les pauvres de Saint-François qui interprètent « Ô bonne Jésus ».